Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Allez, on évoque Donald Trump et le sport ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et on sait que Donald Trump est un grand amateur de golf, mais au-delà de cela, sommes-nous conscients de l'impact des décisions du président américain sur le monde du sport ? On peut citer le décret interdisant aux femmes transgenres de participer à des compétitions féminines que le président américain a pris, ou encore la suspension de la participation des États-Unis à l'Agence mondiale antidopage, alors même qu'ils en sont les principaux contributeurs. Ces questions sont particulièrement brûlantes, car les États-Unis vont dans les prochaines années accueillir les plus grandes compétitions sportives, la Coupe du monde de football en 2026, les Jeux olympiques en 2028 à Los Angeles et très probablement la Coupe du Monde féminine de football en 2031. D'où notre débat ce soir à l'approche des 100 jours à la Maison Blanche. Donald Trump peut-il déconstruire le sport mondial ? À quoi ressembleront ces futurs événements que l'on vient d'évoquer sous le pouvoir de Donald Trump ? Et quel sort pour le sport demain après le mandat du président américain ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Kevin Vessière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en géopolitique du sport, fondateur du média FC Géopolitique, qui possède 70 000 abonnés, et votre ouvrage Géopolympics, les grandes histoires géopolitiques des JO. Face à vous, Julia Solence, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, co-autrice de l'ouvrage « Les femmes au jeu, un parcours sinueux depuis 1896 ». Et notre troisième invité est en ligne avec nous, Mathieu Maisonneuve, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit à l'université Aix-Marseille, docteur et agrégé en droit public, spécialiste du droit du sport, membre du tribunal arbitral du sport et du comité d'experts sur la transidentité dans le sport de haut niveau. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Julia Solence. Voilà, on approche, c'est demain, après-demain, les 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Comment est-ce que ce début de mandat est observé par le monde du sport ? Quels sont les échos pour le moment ?
Alors, je pense qu'en ce moment, le monde du sport tremble un petit peu parce qu'on le voit, même d'ailleurs pas que dans la sphère sportive, mais Donald Trump a signé beaucoup de décrets depuis le début de son second mandat. Donc là, pour l'instant, je pense que ça reste un petit peu... On essaye d'observer pour voir un petit peu comment ça va se passer, puisque bien évidemment, comme vous l'avez dit, les deux gros rendez-vous vont être la Coupe du Monde 2026 et les Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc je pense qu'il y a une sorte de crainte, mais en même temps, essayer de surveiller sans vraiment se prononcer, on reverra ça tout à l'heure, mais Donald Trump n'a pas les pleins pouvoirs non plus par rapport au sport. C'est surtout les fédérations internationales qui ont le dernier mot sur les règles, ouais, etc. On va y revenir. Mais donc, je pense qu'il y a vraiment... Ce débat est très complexe, pour le coup.
Notamment sur la question de la participation, évidemment, des femmes transgenres. Ouais. Mais vous dites qu'il y a des craintes du monde du sport. Mais quelles craintes ?
Eh bien, parce que Donald Trump peut actionner plusieurs leviers pour un petit peu secouer le monde du sport, mais pas en changeant les règles, parce que, comme je le disais, que ce soit par exemple pour le comité olympique ou toutes les fédérations internationales, chaque règle sont déjà inscrites dans le marbre, et ça, Donald Trump ne peut pas les changer là-dessus. Par contre, Donald Trump peut avoir une action, un impact d'une manière beaucoup plus indirecte, que ce soit par exemple avec ses décrets, comme on en reparlera sur les athlètes transgenres, sur la coupure de la contribution dans les universités, ou alors par exemple on peut aborder aussi le sujet du refus de visa. On sait que Donald Trump peut très bien avoir ce pouvoir, et si par exemple concernant les Jeux Olympiques de 2028, s'il réussit à trouver des accords, s'il arrive à s'allier avec par exemple le comité olympique et paralympique américain, il peut très bien par exemple provoquer le boycott de certaines épreuves de la délégation américaine. Il peut faire toutes ces choses tout en respectant la charte par exemple olympique concernant les Jeux olympiques qui lui est obligatoire.
C'est vrai que c'est intéressant de parler de Donald Trump et le sport, parce que c'est pas le premier sujet qui revient. On parle de guerre commerciale, on parle de plein de choses concernant évidemment c'est omniprésent dans l'actualité depuis le mois de janvier concernant le début du mandat de Donald Trump, moins le sport, Kevin Vessière. Pourtant, que pense, alors je ne vais pas vous demander d'être dans la tête de Donald Trump, mais que pense Donald Trump du sport ? Est-ce que pour lui, un outil de géopolitique. Alors, vous êtes expert en géopolitique du sport. Est-ce que c'est un business comme un autre ?
Bon, c'est un peu tout ça, finalement. C'est surtout, en fait, un moyen, un instrument, le sport, que veut utiliser Donald Trump pour, en tout cas, mettre en avant son régime, sa doctrine, qui est finalement de remettre les États-Unis au centre du jeu. Et là-dessus, le sport est un outil très puissant, comme on a pu le voir avec des événements notamment précédents, notamment aussi avec les Jeux Olympiques de Paris, où on a pu voir que Paris et la France étaient au centre du monde durant cette Olympiade. Et là, il y a quand même une séquence assez intéressante pour les États-Unis, puisqu'ils ont la Coupe du Monde 2026, donc, qui est co-organisée avec le Mexique et le Canada. Mais,
ça promet.
Mais il y a quand même 74 matchs sur 106 qui sont organisés sur sol américain. Donc c'est quand même une Coupe du Monde qui est très américaine. Et on a pu voir aussi que Gianni Infantino, président de la FIFA, quand il s'est rendu, en tout cas pour parler de cette Coupe du Monde et pour créer la Task Force, il s'est rendu dans le bureau de Donald Trump et pas au Canada ni au Mexique. Et donc il y a il y a déjà quelques signes qui montrent en tout cas que cette Coupe du Monde sera très américaine. Et effectivement, après, pour les Jeux Olympiques, c'est aussi l'idée pour Donald Trump de mettre en avant, eh bien, que vu que les États-Unis sont au centre du jeu, ça va être, ces événements-là, ils vont être à l'image de Trump et des États-Unis. Et ça va pouvoir lui permettre, en tout cas, comme ça a été évoqué, de mettre en avant certaines actions pour peser sur d'autres sujets, notamment, pourquoi pas, économiques, par le biais, en tout cas, de chantage ou en tout cas de décisions vis-à-vis sportifs qui peuvent avoir un impact dans les relations avec les autres États.
Donc c'est uniquement un levier, le sport, pour Donald Trump. Lui qu'on dit passionné de golf, il n'a pas envie davantage de s'impliquer dans le monde du sport pour d'autres raisons.
Il y a beaucoup de dirigeants sportifs qui se disent passionnés de sport mais qui ne le sont pas vraiment et qui utilisent ce biais-là pour, en tout cas, asseoir en fait une certaine légitimité. Après, le sport, ça a aussi un côté, on va dire, positif. C'est ça aussi qui permet aussi cette instrumentalisation du sport. Et c'est vrai que on voit Trump qui est amateur de golf, mais mis à part cela, même au niveau du football, il a pu en tout cas faire des déclarations, mais c'est en tout cas un instrument politique de son côté. Et c'est un instrument qui est utilisé par le passé par des dirigeants qui avaient un certain autoritarisme, et ça va être le cas aussi au niveau de Donald Trump pour en tout cas promouvoir sa politique.
Mathieu Maisonneuve, professeur de droit à l'Université Aix-Marseille, comment est-ce que vous observez ce début de mandat de Donald Trump et le traitement à l'égard du sport ? Alors, direct ou indirect, parce qu'on a bien compris que les conséquences, elles étaient davantage en direct. Il ne cible pas directement le monde du sport.
Ah, c'est pas facile d'analyser les stratégies de Donald Trump, mais c'est ce que disait Kevin juste à l'instant. Je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire, je ne pense pas que Donald Trump ait une stratégie spécialement sportive. C'est-à-dire qu'il utilise le sport pour répondre à d'autres objectifs qui sont politiques ou autres. Le décret sur les femmes transgenres dans le sport, par exemple, c'est clairement une utilisation du domaine sportif pour promouvoir son idéologie anti-woke. Ouais. Il n'y a aucune raison. Je veux dire, le décret ne repose sur rien de rationnel, rien de scientifique. Ce n'est qu'un décret dogmatique qui sert d'autres fins que la soi-disant protection de l'équité sportive ou de la sécurité des participants. Et c'est un exemple parmi 10 autres de ce que fait Donald Trump en lien avec le sport depuis qu'il a été réélu.
Donc ça veut dire que le sport, finalement, n'est qu'un terrain d'illustration de la politique de Donald Trump au niveau sociétal, mais avec des conséquences, parce que évidemment le sport, on va pas revenir sur les valeurs sociétales, les valeurs d'inclusion du sport, mais les conséquences peuvent être importantes.
Oui, alors les conséquences, on a un peu du mal à les mesurer à ce stade, mais le CIO est inquiet, par exemple.
Le Comité international olympique.
Oui, dans le discours d'adieu de Thomas Bach, donc qui a passé la main il y a quelques semaines, son discours d'adieu, quand on le lit, il fait clairement référence aux valeurs du sport, appelant à ce qu'elles soient préservées parce qu'il sent qu'elles sont menacées.
On peut dire la phrase, je me permets, parce que je ne sais pas si vous alliez la citer, mais une phrase qui a été beaucoup reprise de ce discours de départ de l'ancien, désormais président du CIO, Thomas Bach, qui a dit on voit un nouvel ordre mondial se former, nous devons y être préparés. Il faisait clairement référence à Donald Trump, selon vous ?
Moi, je pense, oui, entre autres, mais notamment à Donald Trump. Donald Trump fait dans le sport ce qu'il fait par ailleurs, c'est-à-dire qu'il se sert de la base pour lutter contre les institutions établies. Et on sent clairement que le CIO est dans son viseur, puisqu'il veut notamment que les règles du CIO changent pour s'adapter à ce qu'il souhaite. On sent que l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, également est dans son viseur, ouais. Et voire peut-être même certaines ligues pro nord-américaines, la NFL par exemple, qu'il a l'air de trouver trop pro-diversité. Donc il a une sorte de combat contre les institutions établies, ce qui est assez classique dans sa façon de faire au-delà du sport.
Julia Solans, comment il peut se traduire ce nouvel ordre mondial qu'évoque Thomas Bach ?
Bah, effectivement, comme on vient de le dire, c'est de changer, d'actionner plusieurs leviers à l'intérieur pour pouvoir le bousculer ensuite, puisqu'il ne peut pas directement le bousculer. Le CIO, juste pour réexpliquer un petit peu, le CIO suit une charte olympique qui a été écrite depuis 1808 et basée sur les écrits de Pierre de Coubertin. Donc on part vraiment d'un écrit très ancien. Le CIO vraiment le suit à la lettre, même s'il le modifie au fur et à mesure en suivant aussi l'évolution de la société, l'évolution du sport. Et là, en fait, on se rend compte que Donald Trump tente par exemple, par le décret signé sur les athlètes transgenres, d'essayer de bouleverser de l'intérieur, parce que du coup, avec ce décret, en coupant les subventions des athlètes transgenres, du coup, ils ne pourront évidemment plus s'entraîner comme les autres, ce qui veut dire qu'ils ne seront plus au niveau pour être sélectionnés pour les Jeux Olympiques.
Donc, c'est comme ça qu'il aura. Et plus participer, bien sûr, c'est ce qu'entend Donald Trump, plus participer aux compétitions.
Exactement, et c'est là où il y aura, un impact. Là, le problème que pourrait rencontrer aussi Donald Trump, c'est que, malheureusement pour lui, entre guillemets, c'est une femme qui a été élue présidente du CIO, une femme qui est assez ouverte et qui souhaite que les choses changent. Donc, ce qui est un peu complexe, c'est que le CIO et Donald Trump sont complètement à contre-courant.
Alors, justement, c'est la question que je vous posais. À quoi ça va ressembler, du coup qu'est-ce que ça augure? Parce qu'on en vient à ce point important du débat, à savoir que les États-Unis vont accueillir toutes les plus grandes compétitions internationales des prochaines années. Je le disais au début de cette émission, la Coupe du Monde de foot 2026, les JO à Los Angeles en 2028, très probablement parce qu'ils sont les seuls candidats retenus en 2031, la Coupe du Monde féminine. Or, il y a ce décret effectivement interdisant aux femmes transgenres de participer à des compétitions féminines, et Donald Trump menace de ne pas délivrer de visa aux athlètes transgenres qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques. Ça augure d'un bras de fer, ça. Exactement. Justement, parce que justement le et après j'écouterai votre réponse, mais le comité olympique et paralympique américain a répondu au décret de Donald Trump en rappelant que ce sont les fédérations internationales qui prennent ce genre de décision. À quoi il faut s'attendre dès lors ?
Bien, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura d'impact direct, mais par contre, ce sera vraiment exactement, comme vous le disiez, un bras de fer entre les deux. Et ça n'augure rien de bon, puisqu'on l'a même vu dans l'histoire des Jeux Olympiques, du comité olympique. C'est toujours très complexe et très compliqué quand la politique s'installe à l'intérieur, puisque le CIO se veut neutre depuis toujours, installé à Lausanne en Suisse pour cette raison aussi. Donc il va y avoir une sorte de guerre froide peut-être aussi entre Donald Trump et le CIO. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mandat de Donald Trump se termine juste après les Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que toutes les décisions et l'impact qu'aura causé Donald Trump sur le monde du sport, et notamment par exemple le comité olympique, les Jeux Olympiques, ça peut s'éterniser ensuite, mais il n'y aura plus ce bras de fer. Tout dépend après, bien évidemment, du prochain président. Donc rien n'est sûr. Mais c'est ça aussi qui peut être très dangereux, parce que Donald Trump n'a absolument rien à perdre. Lui, même les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'est un petit peu le bouquet final de son mandat.
Mais justement, vous parlez d'une guerre froide, mais concrètement, qui aura le fin mot de l'histoire? Parce que à Los Angeles en 2028, est-ce que les femmes transgenres pourront, le prévoit l'Olympique, concourir à Paris? Il y a eu une sprinteuse italienne qui a concouru aux Jeux Paralympiques, donc une sprinteuse transgenre qui était devenue la première athlète transgenre de l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Ce bras de fer, il va déboucher sur des décisions concrètes.
Oui, mais en même temps, je pense que Donald Trump ne pourra pas non plus pousser le bouchon trop loin, si je puis dire.
Et d'imposer quoi que ce soit.
Bien sûr, parce que je pense que Donald Trump n'a rien à y gagner à ce que les Jeux Olympiques de Los Angeles se passent mal. Et même le président du comité olympique et paralympique américain, Gene Sykes, avait fait une prise de parole en avril, il y a quelques jours, pour justement dire, je cite, que le comité olympique et paralympique américain s'était beaucoup entretenu avec Washington, avec Donald Trump. Et je cite, nous avons reçu des garanties importantes sur le travail qu'ils vont faire avec nous, par exemple pour gérer le processus de visa, entre autres, afin que tout se passe bien pour les athlètes et leur entourage. Et je pense que Donald Trump n'a rien à y gagner si ça se passe mal. Donc, c'est exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire bouger de l'intérieur la sphère sportive.
Ou l'ébranler.
Exactement, mais pour que ça débouche sur ses idées d'un point de vue général. Ouais. Que ce ne soit pas vraiment... C'est pas le sport, en fait, je pense, qu'il veut bouger. C'est, par exemple, comme pour les athlètes transgenres, je pense que c'est vraiment... Lui, il veut attaquer directement la communauté transgenre. Plus que le sport en lui-même.
Bien sûr, bien sûr.
Et par contre, l'autre risque que je n'ai pas évoqué, c'est que, par exemple, les États-Unis sont le principal partenaire commercial du CIO, entre autres. Ça veut dire qu'il y a toujours aussi ce danger que les États-Unis coupent les ponts, coupent les subventions qu'ils donnent, par exemple, au CIO, exactement comme on l'a vu avec l'Agence mondiale antidopage.
Principaux partenaires du CIO, premier contributeur, effectivement, de l'Agence mondiale antidopage, dont la suspension et la participation est suspendu depuis le début du mandat de Donald Trump, ça pose beaucoup de questions. Kevin Vessière, puisqu'on évoque les événements à venir au cours desquels les États-Unis seront au cœur du jeu, comment est-ce que l'idéologie de Donald Trump peut-elle transparaître lors de ces événements?
Ça va être une manière, en fait, finalement, déjà de vouloir mettre la personnalité de Donald Trump au centre. Après, effectivement, aussi avec, comme ça a pu être évoqué, certains idéaux qu'il promeut, notamment tout ce qui est anti, finalement, wokisme, comme il peut le dire, par rapport aussi aux athlètes transgenres. Après, comme on a pu l'expliquer, le sport, c'est finalement un levier, donc il a la stratégie du bulldozer. Donc, c'est-à-dire que là où il peut, en tout cas, ébranler cet ordre sportif et faire en sorte que, en tout cas, ça ressemble plus à la vision de l'Amérique qu'il a, il utilise tous les moyens qu'il a en son pouvoir. Après, est-ce que derrière, en utilisant ces moyens-là, ça aura des répercussions sur la durée? C'est la question qui peut se poser, parce qu'on a pu voir que sur les droits de douane, par exemple, il y a eu une grosse offensive guerre commerciale, et après, il y a eu un rétropédalage par rapport à cela. Donc là, c'est peut-être aussi cette stratégie-là, c'est-à-dire d'attaquer avec des décisions autour du sport, et après, voir comment ça réagit pour pouvoir... s'adapter par la suite.
Donc vous êtes d'accord avec ce que dit Julia Solans, en fait il s'agit davantage d'un levier qui est le sport, conséquence de la politique américaine, d'ébranler un petit peu ce monde du sport, mais Donald Trump ne veut pas le voir s'effondrer.
S'effondrer, je pense que ce sera de toute façon...
déconstruit pour répondre à la question.
Déconstruit, je pense que là, il est là aussi dans une phase de test, c'est peut-être aussi un monde qu'il connaît moins que d'autres mondes, notamment économiques ou business, où il avait peut-être... en tout cas, plus d'appétence sur ces milieux-là. Sur le monde du sport, en tout cas, on le connaît effectivement fan de golf, mais on n'a pas vu en tout cas de déclaration autour du sport avant cela, et même son implication au niveau du golf est parfois remise en question, parce qu'il y a pas mal de soupçons aussi de triche quand il gagne des compétitions. Là-dessus, non, je pense que c'est effectivement l'idée, c'est d'ébranler ce monde du sport, d'autant plus que les compétitions ont lieu sur le sol américain. Et donc l'idée, c'est comment est-ce que je peux faire des compétitions à l'image des États-Unis, aussi mettre en avant beaucoup plus... de marque, ou peut-être politiser beaucoup plus la compétition, alors qu'on sait qu'effectivement, comme ça a été rappelé, que le CIO essaye au maximum de mettre en avant une neutralité politique pour pas que ça puisse en tout cas créer des précédents et que ça puisse mettre à mal en tout cas ce monde olympique qui parfois essaye d'avoir en tout cas sa propre voix par rapport au monde diplomatique ou au contexte géopolitique.
Mathieu Maisonneuve, c'est intéressant parce que Kevin Vessière a fait référence à la tricherie, c'est pas la grande qualité de Donald Trump, finalement, le respect de l'équité. Et c'est intéressant parce que vous êtes membre du tribunal arbitral du sport. Est-ce que ça, c'est inquiétant pour vous que les États-Unis organisent de futures aussi grandes compétitions internationales? Ou est-ce que, je vais me permettre de dire que le passé a montré que certains pays, pas les plus démocratiques, ont pu organiser les plus grandes compétitions internationales de sport par le passé?
Oui, inquiétant, je pense pas. Le mouvement sportif a résisté à bien pire que Trump dans son histoire. Des compétitions organisées sur des territoires qui étaient sans doute pires que les États-Unis d'aujourd'hui. Donc, bon, les inquiétudes, pas plus que ça, mais il y a quelque chose qui est amusant avec Donald Trump. C'est-à-dire, c'est une forme de paradoxe ou de contradiction. C'est-à-dire que c'est le premier à dénoncer des atteintes à la neutralité politique du sport. Quand il s'en prend, par exemple, aux sportifs qui mettent le genou à terre, pour rappeler les violences policières. Donc, il dénonce l'utilisation politique qui est faite du sport par certains, par des joueuses américaines, de l'équipe de soccer, de football, par exemple, et lui-même utilise le sport à des fins politiques. C'est un paradoxe dont il est coutumier. Le fait qu'il soit tricheur, bah là encore, ça se retrouve ici. Enfin, je ne sais pas tellement d'ailleurs s'il l'est, mais c'est ce qui a été rapporté dans sa pratique du golf. Le respect des règles, le respect du droit, ce n'est pas ça qui l'intéresse beaucoup. Pour obtenir les Jeux Olympiques de 2028, les États-Unis se sont engagés auprès du CIO, au stade de la candidature, à respecter les règles olympiques et notamment à laisser entrer sur leur territoire toutes les personnes qui seraient dotées d'une accréditation olympique, y compris donc des athlètes trans. Et là, il est question de remettre en cause une promesse que les Américains ont faite. La ville de Los Angeles a signé un contrat avec le CIO, un contrat qui prévoit aussi que pourront entrer sur le territoire américain tous ceux qui auront été accrédités par le CIO. Ben, c'est une promesse, là, visiblement, qui n'a pas l'intention de respecter, et même un contrat. Pareil avec l'AMA, avec l'agence antidopage. Les États-Unis sont engagés à financer. Et les États-Unis reviennent sur leur financement.
Le débat du jour, Romain Oswin.
Donald Trump peut-il déconstruire le sport mondial? Question qu'on pose à l'approche des 100 jours à la Maison-Blanche. Mes trois invités sont Mathieu Maisonneuve, qui est professeur de droit à l'université Aix-Marseille, docteur et agrégé en droit public, spécialiste du sport, membre du tribunal arbitral du sport et du comité d'experts sur la transidentité dans le sport de haut niveau, Julia Solens, qui est journaliste, co-autrice du livre « Les femmes au jeu, un parcours sinueux depuis 1896 » et Kevin Vessière, expert en géopolitique du sport, fondateur du média FC Géopolitics, qui possède 70 000 abonnés et auteur du livre « Géopolympics ». Les grandes histoires géopolitiques des JO, Kevin Vessière. Il peut y avoir des gagnants dans le monde du sport avec le mandat de Donald Trump, des sports. Est-ce que, bah, par exemple, la politique de protectionnisme peut servir les athlètes américains? Est-ce qu'il y a des sports qui peuvent être gagnants?
Après, des sports gagnants, c'est comment dire. Je pense pas que Trump pourra modifier les règles des compétitions, même si on a pu connaître des Coupes du Monde, des JO, en tout cas, il y a eu des cas de triche.
Mais, il va s'investir davantage, j'entends. Oui, lesquels il a envie de s'investir davantage et donc favoriser
Après, le problème avec Donald Trump, c'est qu'il va y avoir beaucoup de déclarations sur le fait qu'il va vouloir favoriser, en tout cas, des athlètes américains ou des sélections américaines. Mais après, est-ce qu'il y aura les financements qui seront derrière? Et puis, avoir cette ambition-là au niveau du sport, quand on sait que c'est compliqué de créer des champions olympiques et aussi des équipes, notamment, qui peuvent performer en Coupe du Monde, c'est quand même sur un temps extrêmement long. Donc, j'ai peine à croire, en tout cas, qu'au niveau des sports où les États-Unis sont moins présents, notamment le football ou le soccer, comme ils peuvent le dire, il y aura en tout cas des avantages qui seront mis en avant. Mais après, là aussi, au niveau des sports, en tout cas, américains ou même des ligues nord-américaines, il pourra peut-être y avoir certains avantages ou certaines pressions qui pourront être mises en place. Notamment, on pense à Trump et la NBA ne sont pas forcément liés, mais on voit que la NBA, en tout cas, essaye de se développer et développer d'autres formats d'NBA, notamment en Europe. Est-ce que ça peut être aussi un levier pour Donald Trump de voir par là un moyen, en tout cas, de mettre en avant le soft power américain et aussi la puissance culturelle américaine, qui aussi, ça passe aussi par le sport. Ça peut être, en tout cas, ces leviers-là qui peuvent être activés par Donald Trump. Après, sur l'aspect des athlètes et de la formation et des champions, je pense que le temps est trop court, en tout cas, pour le faire. Il y aura une razzia de médailles pour les athlètes américains au JO, parce que c'est l'habitude. Après, pour la question du soccer, l'intérêt sera ailleurs, ce sera plus au niveau de l'organisation et surtout de faire un show à l'américaine par rapport à la compétition de la Coupe du Monde qui sera principalement sur le sol américain.
Et vous avez prononcé un mot important, soft power, parce que je pense que ça résume bien effectivement la vision du sport selon Donald Trump. C'est un soft power parmi d'autres. Julia Solens, finalement, je vous rejoins un petit peu dans ce que vous nous dites tous les trois, c'est que Donald Trump, effectivement, ne va pas faire s'effondrer ce monde du sport, ne va pas complètement le déconstruire, qu'il y a beaucoup de coups d'éclat. Mais est-ce que, par exemple, ces Enhanced Games, vous avez eu écho, ce sont des jeux améliorés où le dopage serait autorisé, dans lesquels le fils de Donald Trump Jr., a investi des millions de dollars, ça pourrait voir le jour fin 2025 aux États-Unis? C'est d'augure à faire très peur, ça peut être très inquiétant. C'est un énième coup d'éclat pour vous?
Oui, je pense que ça n'aura pas d'impact réel et je ne pense que ça ne fera pas d'ombre aux autres événements sportifs. Mmh. Je ne pense pas que ça remplace les Jeux Olympiques ou même la Coupe du Monde de football, etc. Mais quand on parlait de soft power, moi je pense aussi que Donald Trump, il est aussi dans une utilisation d'un soft power personnel. Je pense que déjà, effectivement, c'est toujours pour mettre en avant les États-Unis, la grandeur du pays. Mais en même temps, je pense que c'est aussi pour lui qu'il fait tout ça. Je pense que c'est pour propager, faire une sorte de propagande de ses idées aussi, lui, par les discours qu'il y aura pendant les événements, toutes les apparitions publiques, tout ça. Même par exemple, rien que à la cérémonie d'ouverture le 14 juillet 2028, quand il sera aux côtés de Kirsty Coventry et qu'il fera le discours d'ouverture des Jeux. Je pense que lui, c'est vraiment le moment idéal d'utiliser son image et d'être encore un petit peu dans le tape à l'œil, ce qu'il sait très bien faire d'ailleurs, ce qu'il fait toujours en politique, même pas que dans le sport. Donc je pense que même ces jeux dont vous parlez, c'est une manière d'encore une fois créer un autre événement sportif un peu plus éclatant, de montrer, comme le disait Kevin, de montrer la grandeur des États-Unis, de savoir faire le show. Et d'ailleurs, même par rapport au foot, effectivement, Donald Trump n'a jamais montré une immense passion pour le football ou le soccer pour lui. Mais quand Gianni Infantino était venu à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale,
c'était montré très proche.
Et il avait un grand sourire et il disait fièrement ce sera le plus grand événement de tous les temps, alors qu'il n'aurait jamais dit ça pour une autre Coupe du Monde organisée dans un autre pays.
Bien sûr. Mathieu Maisonneuve, on approche de la fin de notre débat. Si on se projette un petit peu sur l'héritage Donald Trump dans le monde du sport, quel sera-t-il ? Est-ce qu'il sera important ou est-ce que finalement il va s'effriter ? Julia Solans évoquait Los Angeles 2028 qui marquera bientôt la fin de son mandat. Que restera-t-il de Donald Trump après ? Ou de son empreinte sur le sport ?
C'est vraiment difficile à dire parce que rien que Los Angeles, c'est en 2028, c'est dans 3 ans. Et comme Julia le rappelait très justement, Donald Trump ne peut pas modifier les règles du sport. Mmh. Il peut influencer pour des changements, et aux États-Unis, il peut le faire en coupant des subventions à des universités, des écoles. Mais au niveau international, il ne peut qu'espérer que le CIO s'aligne. Est-ce que son propre décret à lui sur les transgenres survivra aux semaines, aux mois qui viennent? C'est pas sûr.
Ouais.
Ce décret a été attaqué en justice, par exemple, aux États-Unis, par 2 adolescentes du New Hampshire, qui sont interdites de faire du sport de compétition. Il n'est pas totalement impossible que la justice américaine estime elle-même que ce décret est totalement illégal, en tout cas contre la Constitution.
Ouais.
Et puis, Donald Trump aussi vise les athlètes transgenres, mais il mélange un peu tout. Parce qu'il y a 2 questions, il y a celle des athlètes transgenres, et c'est une vraie question, et puis il y a la question des athlètes intersexes, c'est une autre question. La boxeuse algérienne dont on a beaucoup parlé au jeu de Paris, Iman Relief, c'est une autre question, c'est une athlète intersexe.
Et ça montre qu'il y a... Ouais, je me permets de précipiter un peu la fin du débat parce que c'est déjà terminé, mais effectivement, ça montre qu'il y a beaucoup d'amalgame selon Donald Trump. Mais pour répondre à la question du débat, Donald Trump, non, ne déconstruira pas le sport mondial. Il peut l'ébranler, certes, ce sera une des conséquences de sa politique internationale menée, et évidemment, qui fait grand bruit depuis bientôt 100 jours. Merci beaucoup à vous trois, Kevin Vessière, Julia Solans et Mathieu Maisonneuve. Merci à Valentin Vaner qui était à la réalisation et Arnaud Dassoa qui était à la préparation de ce débat du jour. Rendez-vous sur RFI.fr pour le réécouter, le podcaster.
RFI.
Allez, dans une minute, ce sera le grand journal du soir. Et puis juste après, 30 minutes plus tard, il est déjà là à mes côtés. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Quel programme ce soir dans Afrique Soir, la Côte d'Ivoire, la justice qui apporte des précisions sur la radiation la semaine dernière de Tidjane Thiam de la liste électorale.
Et oui, par cette décision de justice, le chef du principal parti d'opposition est de fait exclu de la course à la présidentielle du 25 octobre prochain. L'opposant dénonce un déni de justice.
Au Mali, la future charte des partis politiques officiellement en phase de relecture.
Objectif, réduire le nombre de partis et d'encadrer les financements. La classe politique dénonce depuis plusieurs semaines une mise en scène destinée à la faire disparaître.
Et puis également, titre qui sera développé dans 30 minutes, la RDC et la vague de critiques de l'opposition sur la déclaration d'intention signée vendredi dernier par Kigali et Kinshasa.
Mais oui, cette déclaration sous l'égide des États-Unis doit aboutir, nous dit-on, à un accord de paix qui vise à promouvoir, je cite, la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs.
Vous développez tous ces titres dans 30 minutes, Zéphirin ? Bien, merci. Dans un instant, c'est le grand journal du soir. Ne bougez pas sur RFI.